Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce lundi matin, c'est Manon Gall qui est avec nous. Elle est secrétaire régionale Les Écologistes Bretagne. Elle est venue de Brest exprès pour être avec nous au micro de la matinale et je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler d'Europe, on en parle beaucoup sur l'antenne de Bretagne 5.
C'est le moment, en cette
campagne électorale qui se déroule dans un climat un petit peu tendu, il faut bien le dire aujourd'hui. J'avais envie d'entendre la parole des écologistes autour justement de la politique européenne et il y a eu l'expression du président de la République Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne. On a entendu des voix écologistes dire que finalement on avait le président de la République n'avait pas beaucoup parlé d'écologie.
Non. Déjà, pour commencer, Emmanuel Macron se positionne comme leader pour les européennes, alors que finalement, il a toujours pas de liste constituée. D'ores et déjà, c'est un petit peu étonnant que ce soit lui qui prenne la parole sur les questions européennes. Mais quoi qu'il en soit, sur le contenu, concrètement, ce qu'on peut retenir, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses sur la souveraineté, beaucoup de choses sur une Europe forte, tout ce qui est en relation avec l'armée, etc. Mais pas grand-chose sur l'écologie. Pourtant, il y a 5 ans, aux dernières élections européennes, c'était le maître mot, c'était l'écologie. Et en fait, on voit finalement que les macronistes, ils vont toujours en fonction de là où leur porte le vent. Alors, quand l'écologie, c'est à la mode, ben l'écologie, c'est numéro un. Alors que quand on voit qu'il y a un peu un climat où on parle un peu moins d'écologie, alors que le sujet, il est toujours présent, il est même de plus en plus présent.
On en parle même dans les flashs météo aujourd'hui, dans les bulletins météo du réchauffement climatique, par
toujours,
exemple.
Tout le monde est conscient qu'il y a un réel problème. On a vu, il y a eu énormément de tempêtes, notamment à Brest, nous, on a vécu plusieurs tempêtes qui ont eu des dégâts considérables sur les bâtiments, sur les exploitations agricoles, sur beaucoup de choses. On a des inondations, des sécheresses, des pics de chaleur. En avril, on a eu un mois d'avril. En fait, tous les mois, on a des pics de chaleur par rapport aux années précédentes. Et pour autant, Emmanuel Macron, ça n'est pas un sujet pour lui.
On n'a pas beaucoup parlé, enfin en tout cas le président de la République a beaucoup parlé d'industrialisation, de faire une Europe championne un peu de l'industrialisation, une Europe forte, une Europe souveraine. Est-ce que finalement c'est antinomique avec la cause, je vais parler de cause, la cause de l'environnement? Est-ce qu'on peut faire une Europe industrielle mais à la fois respectueuse de l'environnement?
Bien sûr, évidemment. Ce qu'on voit, ce qui manque en réalité énormément, notamment dans le pacte vert européen. Aujourd'hui, on a eu un nouveau jalon pour le pacte vert européen. Tout le monde se gargarise des acquis dans ce domaine-là. Et pourtant, en face, on n'a pas réellement d'argent qui est mis pour vraiment entamer ces transitions. Ce qu'il faut, c'est investir énormément pour justement aller vers plus de transitions. Et ça, c'est vecteur de travail, c'est vecteur d'activité. Mais une activité qui soit vertueuse. Et on voit aujourd'hui qu'on coupe dans les budgets. Concrètement, c'est ça qui se passe en Europe, en France. En France, là, dernièrement, étant donné qu'on n'a pas eu des bons résultats au niveau de la croissance française, le premier ministère qui trinque, c'est le ministère de l'Environnement. On a 2,5 milliards milliards d'euros en moins pour le ministère de l'Environnement. Et ce qui est principalement ce qui est touché, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Il faut savoir que c'est 1 milliard en moins sur la rénovation thermique, ce qui correspond à environ 150 000 logements qui ne seront pas rénovés. Ça aurait pu être vecteur d'activité, ça aurait pu être, au-delà de l'activité, évidemment, un confort pour les personnes, des personnes qui sont souvent dans la précarité énergétique. Et concrètement, on a des paroles, etc. Mais derrière, les actes ne suivent pas, on n'a pas de budget. Et c'est finalement les Français, les Européens, européennes, qui trinquent.
Avec aujourd'hui une campagne, alors on va parler de la campagne des écologistes qui est conduite par Marie Toussaint. Elle est créditée, Marie Toussaint, de 6 à 8% des intentions de vote. C'est un peu décevant. Alors, ça reste un sondage, je le précise. Ça reste un sondage.
Le match n'est pas joué, on va dire. Concrètement, quand on voit les chiffres de Yannick Jadot lors des dernières élections européennes, il était crédité à peu près au même niveau que Marie Toussaint ce mois d'avril. Même le jour des élections, on était crédité de 6 à 8% maximum et on a fait finalement proche de 15%. Donc j'ai tendance à dire que non, le match n'est pas joué et il y a énormément de choses. Justement, il y a une campagne à mener. Les personnes, je pense que les Français, les Françaises et les Européens ne sont pas encore rentrés dans la campagne, malgré qu'on soit sur le terrain tous les jours. Mais c'est le moment justement d'en parler et j'ai aucune crainte sur le fait que on fera un bien meilleur score que ce qui est annoncé.
Il y a les jeunes qui s'intéressent beaucoup, la jeune génération qui s'intéresse beaucoup aux faits climatiques, à l'environnement, à essayer de vivre dans un environnement qui reste viable, c'est le cas de le dire, et vivable, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que les jeunes s'investissent finalement pour aller voter aux européennes? Parce qu'on dit souvent que, ben voilà, il y a les intentions, puis il y a les votes.
Les jeunes sont très politisés, contrairement à ce qu'on dit. Ils ne se reconnaissent pas forcément dans les personnes qui les représentent, ça c'est certain. Il y a des chiffres effectivement qui montrent que les jeunes vont moins voter ou ne vont pas tellement voter. Pour autant, ils sont très politisés. Alors, la question, c'est plutôt, est-ce que c'est notre responsabilité en tant que responsable politique d'essayer de porter leur voix? Nous, chez les écologistes, on a à cœur d'avoir des représentants qui représentent aussi la jeunesse. Et ça se ressent aussi dans les personnes qui votent pour les écologistes. C'est souvent, effectivement, nous, notre cœur de cible, on va dire, entre guillemets, c'est les jeunes. Et on a notamment... Si je peux me permettre, on a des Bretons qui sont sur la liste de Marie Toussaint, et notamment Nolwenn Henry, qui est une jeune écologiste élue à Quimper de 25 ans, qui est hyper investie. Et on a aussi des jeunes, qui fait partie aussi des jeunes écologistes bretons, et qui sont de plus en plus nombreux. Donc on va mettre en place plein de choses. Eux, ils vont chercher aussi des jeunes là où ils sont, pour essayer de les sensibiliser aux questions européennes. Par contre, moi je pense qu'effectivement les jeunes sont très politisés. Ils vont peut-être pas voter, mais ils sont très politisés, ça c'est sûr.
Vous leur dites, quand vous allez tracter sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, vous leur dites, voilà, il faut voter, il faut faire ce petit geste qui est important pour la démocratie.
Oui, parce que c'est ce qui nous reste. C'est un peu terrible de dire ça comme ça, mais il y a effectivement des actions qu'on peut mener dans des associations pour faire changer les choses au niveau local. Il y a il y a plein de niveaux, en fait. Ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'il y a plein de niveaux d'action. On peut, à son échelle personnelle, faire mettre en place des choses dans sa vie quotidienne. On peut être dans des associations pour être dans une action plus collective. Mais le fait d'aller voter, c'est s'investir et c'est agir dans les instances et dans les instances à tous les niveaux. On voit, voilà, que ce soit au municipal, on a des élus, je remercie beaucoup nos maires écologistes qui font un travail remarquable quand même depuis 2020, faut le dire, qui changent la vie de tous les Français, les Françaises. Et donc là, en Union européenne aussi, il faut aller voter pour avoir des représentants dans les instances.
Alors, un petit mot sur la politique politicienne. Là encore, ça nous ramène au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Discours un petit peu anxiogène quand même. Emmanuel Macron disait jeudi être celui qui imaginait que l'Europe pouvait être en danger de mort si la politique prônée, en fait, continuait de s'appliquer. Est-ce que l'Europe est en danger de mort? Est-ce que ce sont les extrêmes, finalement, qui menacent la cohésion de l'Union européenne?
Ah bah, on ne peut pas dire le contraire, il y a une montée des extrêmes partout en Europe. C'est un constat, on ne peut pas dire le contraire. Et effectivement, il y a une remise en... C'est pour ça aussi qu'il faut aller voter, et en son âme et conscience. Et aujourd'hui, on a la chance, avec une élection comme les européennes, qui est une élection à la proportionnelle, à un tour, on peut voter en son âme et conscience, avec le programme, les personnes qui nous représenteraient le mieux. Il ne faut pas être... dans un vote utile ou par défaut, parce qu'on a vraiment la chance de s'exprimer et de faire exprimer ses idées. Et effectivement, il y a une montée des extrêmes, l'extrême droite en particulier, en France, partout, en fait, en Europe. Et
même en Bretagne, qui était un peu épargnée par le phénomène jusque-là.
Oui, même en Bretagne, tout à fait. On a de toute façon, partout, on a une montée des extrêmes, de l'extrême droite en particulier, qui, en réalité, remet en question les droits humains, qui n'est pas du tout dans une solidarité, même interétatique. Le programme de Rassemblement National, c'est un repli sur soi, concrètement. C'est la fin de la solidarité entre les pays. On parle beaucoup de la guerre aujourd'hui face à Poutine, la Russie, et puis avec Donald Trump qui peut arriver au pouvoir, et on le sait, ça arrive ça va peut-être arriver. Il faut renforcer notre armée, mais tout seul, on n'y arrivera pas. Mmh. Il va falloir qu'on se coordonne au niveau de l'Union européenne, et ça ne peut fonctionner que grâce à l'Union européenne, que grâce à l'Europe.
Voilà, la France ne serait pas assez puissante pour le faire.
Non, j'en ai la certitude. En tout cas, moi, je pense que le projet européen, c'est un projet de solidarité. C'est un projet où il faut qu'on puisse se coordonner et qu'on sera beaucoup plus forts les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres.
On a regardé un petit peu le programme. Alors, on ne va pas tout le détailler. Il faudrait un petit peu plus de temps ce matin. Mais il y a des choses moi, que j'ai relevées dans le programme que propose Marie Toussaint. Je rappelle qu'elle est tête de liste Les Écologistes aux élections européennes. Avec cette TVA verte, elle en a parlé plusieurs fois dans les médias. Mmh. Elle s'est exprimée autour de cette TVA verte. Est-ce que ça permettrait finalement de financer la transition écologique d'une part, et peut-être des projets pour décarboner d'autre part.
Tout à fait. Il y a un vrai enjeu, on a commencé par ça, pour le financement de cette transition énergétique. On l'a vu avec le rapport Pisani-Ferry, qui était par ailleurs un conseiller d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Il y a un vrai besoin, qui se chiffre en milliards, d'investissement, d'avoir de la dette. On peut parler de bonne dette, parce qu'il y a des mauvaises dettes, on parle beaucoup de la dette, etc. Mais aujourd'hui, on a aussi de la bonne dette, la dette qui permet d'investir dans un avenir. Et donc, on a la partie, évidemment, de la dette, mais on peut aussi aller chercher des fonds un peu partout, et notamment avec la TVA verte. La TVA verte, l'objectif, c'est surtout d'orienter notamment les consommations et d'avoir des débouchés, un peu plus de débouchés pour des produits qui sont... respectueux de l'environnement, du vivant. L'objectif, c'est aujourd'hui, on a les 20% que l'on connaît. Mmh. L'objectif, c'est d'avoir une réduction de cette TVA, de la réduire à 5,5% sur des produits qui soient qui respectent l'environnement et qui soient vertueux. Ça permettrait notamment de reprendre, de redonner un petit peu de pouvoir d'achat à la population et de favoriser des produits par rapport à d'autres.
Voilà, et puis aussi d'organiser peut-être des circuits courts. On en parle beaucoup de ces circuits courts aujourd'hui. Il y a une demande aussi du monde agricole. Alors, c'est pas simple, l'agriculture. On a vu les agriculteurs très souvent avec leurs tracteurs dans nos campagnes, dans nos rues ces temps derniers, qui ont une forme de défiance aussi vis-à-vis de l'Europe. Il faut leur parler aux agriculteurs, aux paysans aujourd'hui.
Oui. Juste pour terminer simplement sur la partie financement et après je reviens sur l'agriculture parce que c'est un sujet très important notamment en Europe. On a donc cette TVA verte évidemment, mais on avait également, et je pense que ça on en reparle un petit peu en ce moment, c'est l'ISF climatique qui je pense est une source de revenus de financement important que Marie Toussaint défend dans son programme. Et il y a d'autres manières comme ça de financer. Pour revenir à l'agriculture, effectivement, on a beaucoup mis la colère des agriculteurs sur les écologistes les mesures environnementales qui sont notamment fixées par l'Union européenne au travers de la politique agricole commune. Alors qu'en réalité, les écologistes ont toujours été, et depuis toujours, pour les agriculteurs et pour plus de revenus pour les agriculteurs en particulier. Parce que finalement, c'était la demande principale, d'avoir plus de revenus.
De vivre de leur travail. C'est ce qu'on a pu
tout
voir.
Tout simplement. Mmh. Et ce qui est normal. Aujourd'hui, les réponses qui ont été apportées par Emmanuel Macron, ça a été réduire les normes environnementales, détricoter la PAC, avoir de moins en moins de contraintes, que ce soit sur les prairies, sur les terres en jachère, sur le glyphosate, les pesticides. On est en train de revenir également, on a deux propositions de loi en ce moment sur les néonicotinoïdes qui sont portées par le Renaissance et par les Républicains, mm-hmm. qui veulent revenir là-dessus. Donc on a un détricotage de tout ce qu'on avait construit sur la protection du vivant, qui ne résout pas du tout la problématique des agriculteurs. Les agriculteurs, ils veulent plus de pouvoir d'achat, enfin de revenus. Mm-hmm. Et donc, nous, ce qu'on propose, les écologistes et Marie Toussaint, c'est plutôt pour redonner du revenu, c'est éviter tout ce qui est concurrence déloyale. Mm-hmm. Donc, être contre tous les accords de libre-échange. Jusque depuis le départ, nos députés européens, ils ont toujours voté contre tous les accords de libre-échange, ce qui n'a pas été le cas des macronistes, qui ont voté pour la plupart. Là, le dernier, ils sont plutôt contre. Voilà, ils aimeraient avoir un peu profiter un peu le beurre et l'argent du beurre, profiter de certains accords de libre-échange pour bénéficier de prix moins élevés sur certains produits, et puis vendre nos produits. Enfin, en fait, le beurre et l'argent du beurre avec aucune considération écologique ou climatique derrière. Donc nous, voilà, la première proposition, c'est évidemment, voilà, sur la concurrence déloyale, sortir des accords de libre-échange, et puis avoir des revenus, des prix planchers sur certains produits agricoles, et puis des garanties contre les aléas climatiques. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, voilà, les tempêtes, les inondations, ça a des conséquences très importante sur les exploitations, sur les agriculteurs. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu. Rien du tout.
Voilà, donc là, il y a un chantier à conduire, à mener. On parle aussi de changer de modèle. Oui, pardon.
Si je peux me permettre un dernier élément. Changement de modèle, bah, justement, ça a l'air, j'allais rebondir là-dessus. On a, parce que j'en profite pour vendre aussi un petit peu les candidats qui sont, en tout cas, les présentés. On a Gwenaëlle Floch qui est sur la liste des Européennes de Marie Toussaint, qui est un Breton qui vient d'Ille-et-Vilaine et qui a son exploitation agricole proche de Rennes et qui aujourd'hui a une exploitation qu'on peut appeler petite parce qu'il a 0,5 hectares. Donc c'est une petite exploitation et qui donc ne bénéficie pas de la politique agricole commune parce que c'est une prime, il faut le savoir, c'est une prime au nombre d'hectares. Mmh. En parallèle, il recrute 5 personnes. Il a 5 personnes sur une petite exploitation. C'est absolument pas valorisé. En comparaison, dans le conventionnel, on a en général 1,5 environ emplois sur chaque exploitation. Et donc il y a un rééquilibrage de la PAC, de la politique agricole commune à faire.
Voilà, rééquilibrage. Ce qui nous amène à ce fameux changement de modèle. Ouais. Aujourd'hui, on prône un changement de modèle sociétal. En tout cas, si j'ai bien lu le programme des écologistes, ça veut dire aussi changer d'habitude. Ça veut dire aussi peut-être faire évoluer les convictions des Françaises, des Français en matière écologique, mais aussi en matière sociale. Ça aussi, c'est important. Parce que souvent, on dit, oui, des écologistes, bon, mais en matière sociale, il y a aussi matière, si j'ose dire, à avancer, à changer de modèle.
Alors déjà, je pense que les personnes sont, entre guillemets, prêtes. Il n'y a pas de changement de comportement, de conviction, je ne pense pas. Ce qui manque, c'est évidemment les moyens pour changer et pour justement respecter leurs convictions, parce que je pense que les Français et les Françaises, ils ont envie de manger bien, ils ont envie de consommer local. Ce qui manque, c'est plutôt qu'on les aide à le faire.
Oui, parce que c'est pas toujours évident, les fins de mois sont pas toujours faciles.
Complètement.
Et c'est pas toujours évident de manger bio, de bien manger simplement.
Voilà. Mais en fait, quand une politique écologiste, elle est jamais mieux faite que par les écologistes. Concrètement, pour avoir une politique écologiste, si on met en place une politique écologiste qui est pas faite par les écologistes, en général, c'est une catastrophe. Parce que, comme on le voit actuellement, l'écologie n'est pas du tout au centre de certaines propositions. Et puis un jour, on se réveille et bam, on met une taxe, on fait de l'écologie punitive. Mais c'est parce qu'on s'en est jamais préoccupé jusqu'à présent. Mmh. Nous, ce qu'on prône, c'est d'avoir une écologie qui puisse être en phase avec l'acceptabilité sociale. On l'a vu avec les gilets jaunes. On a taxé du jour au lendemain les personnes qui déjà avaient des difficultés, la classe moyenne dont on parle beaucoup, qui avaient des difficultés pour finir les fins de mois. Bah évidemment, si du jour au lendemain ça tombe et on nous demande de changer nos habitudes, comme on dit, bah c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on souhaite, et au niveau de l'Union européenne justement, c'est ce qui manque dans le pacte vert européen, on y revient, c'est toutes les mesures d'accompagnement social et toutes les politiques écologistes que les écologistes mènent et nos maires de grandes villes et de moyennes villes et de petites villes d'ailleurs dont on parle moins et communes, à chaque fois qu'ils mettent en place une politique écologiste, il y a toujours une politique sociale en face.
Voilà, c'est-à-dire équilibrer entre l'écologie et le social.
La transition.
Voilà, la transition et l'acceptabilité, évidemment, de ces politiques. On va parler d'énergie aussi. Alors là, c'est un sujet important pour les écologistes, l'énergie. Aujourd'hui, l'électricité, c'est cher. On entend certaines voix qui disent « oui, c'est la faute aux écologistes qui veulent... »
C'est toujours la faute des écologistes.
qui veulent... Alors, je me fais le porte-parole de ce qu'on entend un petit peu de ci, de là. C'est la faute aux écologistes parce que l'électricité est chère aujourd'hui. On nous met des éoliennes, c'est pas beau, voilà, etc. Est-ce qu'il faut revenir au nucléaire? Voilà, je suis provoquant à bon escient.
Alors le nucléaire, ça paraît être la bonne idée, mais sauf que le nucléaire, ça se fait pas du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est un mur climatique qui nous arrive. Mmh. Aujourd'hui, il faut prendre les choses en main et rapidement, avant que ce soit encore plus une catastrophe que celle-là aujourd'hui. Un réacteur nucléaire, ça se met 15 ans à sortir de terre. Et aujourd'hui, on le voit, on a plein d'exemples, hein, c'est des gouffres financiers. Mmh. C'est souvent énormément de retard. Et donc aujourd'hui, la solution la plus crédible, finalement, c'est de développer les énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les centrales nucléaires qui sont actuellement en activité. Il faut les sécuriser, ça c'est clair. Il faut continuer à former des personnes pour sécuriser les centrales qui sont actuellement en activité. Et pour aller vers une sortie du nucléaire, parce que voilà, les risques, ils existent, on les connaît. Les déchets, on les connaît. C'est un problème qu'on ne peut pas nier. Mais en tout cas, en termes d'efficacité, le premier, c'est évidemment... donc rapidement rattraper notre retard parce qu'on est les grands retardataires en Union européenne justement sur les énergies renouvelables. Donc mettre le paquet là-dessus, ça veut dire des financements. Deuxième volet, c'est la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on ne va pas y revenir, mais c'est prioritaire. Il faut vraiment rendre nos bâtiments les plus efficaces possibles.
Alors avec aussi une demande croissante en énergie, on reste un petit peu sur l'électricité, on nous vend beaucoup le modèle, on va parler de mobilité, hein, on nous vend beaucoup le modèle de la voiture électrique aujourd'hui. Bon, elle reste encore chère, même s'il y a eu des mesures entreprises pour pouvoir permettre aux ménages les plus modestes de se payer une voiture électrique, ça reste encore cher. Et est-ce que c'est vraiment écologique finalement?
Alors moi, j'ai envie de dire, la voiture électrique, c'est l'avenir de la voiture. C'est l'avenir de la voiture. Mmh. Mais est-ce que la voiture est vraiment l'avenir de la mobilité? C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois. C'est qu'on va pas faire un report de toutes les voitures thermiques vers des voitures électriques. C'est pas ça la solution, parce qu'on reporte le problème.
Est-ce qu'il faut travailler sur les mobilités? Pardonnez-moi, je vous coupe, mais est-ce qu'il faut travailler sur les mobilités, les transports en commun? Évidemment, on y pense dans les campagnes, parce qu'on a vu nos lignes de chemin de fer fermées, pas forcément rouvrir, c'est pas simple. Et donc, la voiture est utile, la voiture électrique.
La voiture est utile, la voiture sera de toute manière toujours utile. Il y a des territoires dans lesquels on aura besoin de son véhicule. Évidemment, il faudra un véhicule le plus léger possible, ça c'est avec le moins d'électronique possible, des choses un peu sobres, mais on ne pourra pas s'en passer partout. Par contre, on a énormément de travail à faire sur le ferroviaire, sur le transport, le fret, le transport de marchandises par le train, le transport de personnes évidemment. Moi j'habite à Brest, on a quand même un sujet d'accessibilité important. Et puis dans les territoires plus ruraux, évidemment, on peut mettre en place du transport en commun, on peut mettre en place des mobilités douces, enfin de faciliter les mobilités douces. La voiture aura toujours sa place. Simplement, limiter la taille de ces véhicules et favoriser un maximum les transports en commun et aider les personnes à acquérir effectivement des véhicules qui soient électriques.
Alors, on a vu dans la presse il y a quelque temps, là encore, l'Union européenne prendre une décision un peu surprenante, l'autorisation des super camions, hein, plus de 60 tonnes, hein, sur les routes. Ça a posé beaucoup de questions aussi sur l'entretien des infrastructures, sur les dangers routiers finalement. Ce ne serait pas mieux sur le train, ces gros camions?
Si, bien sûr, ça paraît évident, mais il y a des choses comme ça qui existent. C'est comme les super gros bateaux. On essaye de toujours. Il y a toujours une sorte de course comme ça aux plus gros véhicules, alors que c'est plus de notre temps. Je crois qu'il faut changer.
Voilà, là encore, il faut changer le modèle. Alors, On va, il nous reste allez, quelques minutes, 4 minutes, me dit notre réalisateur, il est intraitable sur le temps. Je voulais parler des territoires, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des territoires. Là aussi, une grande mutation, on a eu la décentralisation, on parle parfois d'autonomie, c'est le cas, en tout cas, ça a été enclenché par Gérald Darmanin pour la Corse, en France, peut-être pour la Bretagne, hein. On a entendu Loïc Chesnais-Girard, notre président de la région Bretagne, faire ce vœu, là aussi. Est-ce que on va aller là aussi vers une Europe des territoires, mais plus l'Europe des nations, une Europe peut-être plus fédéraliste, plus régionaliste?
Alors nous, c'est ce qu'on porte, une Europe des régions. Une Europe qui soit avec des régions plus fortes, qui ait plus de compétences, plus de moyens, et une Europe qui s'adapte aux territoires. Alors ça ne veut pas dire qu'on remet en question les États, c'est simplement que...
Il y a une crainte là-dessus, on entend beaucoup de partis, on pense à la droite, la LR, qui s'inquiète en disant, voilà, si on fait une Europe fédérale, les partis disparaissent, les nations, pardon, disparaissent, non pas les partis.
Non, mais il y a des différences entre les régions, on le sait, des fois on peut être en Bretagne, on a des similitudes avec des régions plus celtes, qui ne sont pas en France, mais pour le coup, on peut avoir des similitudes en termes de culture, en termes de, d'enjeux territoriaux, en termes de... Voilà, par exemple, on a une mère en commun, enfin, il y a des choses sur lesquelles on pourrait être plus spécifique en termes de législation, en termes avoir des politiques et des compétences, des moyens qui soient plus proches des citoyens, finalement. Parce que parfois, on a des choses qui sont appliquées au niveau national qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au local. Et donc, on porte le plus possible une Europe fédérale, une Europe des régions, avec des régions fortes, un peu comme il en existe en Allemagne avec les Länder. Mmh.
Est-ce qu'on ne craint pas dans ce cas-là un éloignement des centres décisionnaires? Est-ce que la région doit rester centre décisionnaire ou est-ce que ça va se passer à Strasbourg et à Bruxelles?
Ah ben non, justement, avec des régions qui soient fortes, on reprend du pouvoir finalement, parce qu'aujourd'hui, on est dirigé par on est représenté en tant que voix française par par la France, notre représentant du gouvernement français. Or, il ne peut pas spécifiquement porter la voix de la Bretagne. J'en sais rien, par exemple, pour le train, on a eu des trains de nuit qui sont arrivés dans toute l'Europe. Bon, bah, le Grand Ouest est complètement oublié, par exemple. Alors, est-ce que la France a intérêt à développer plus le Grand Ouest? Pas nécessairement. Pour lui, c'est simplement avoir un accès à la France vers l'Union européenne. Bah, nous, en tant que Bretagne, on aurait pu porter notre voix davantage si on avait un peu plus de pouvoir.
Voilà, donc le pouvoir, là aussi, important pour pouvoir se faire entendre. Un dernier mot, on va parler d'immigration très rapidement. Aujourd'hui, on a tout un débat qui se cristallise autour de l'immigration. Alors, en quelques minutes, on n'aura pas le temps, évidemment, de tout aborder. Il nous reste à peine une minute. Mais aujourd'hui, on a une cristallisation du débat. Est-ce que c'est un faux débat? Est-ce qu'il faut penser à l'immigration de demain? On peut imaginer peut-être les réfugiés climatiques. On parlait du climat tout à l'heure. Est-ce qu'il va falloir que l'Europe repense son accueil des migrants?
Ah bah oui, c'est certain. On va pas mettre des murs, en fait. Mettre des murs, ça n'a jamais arrêté les personnes. Les personnes, elles sont dans un désespoir dans certains pays, en recherche d'une meilleure situation économique, humanitaire, beaucoup humanitaire, et climatique, de plus en plus. Aujourd'hui, si on n'est pas en capacité de prévoir l'accueil, et un accueil correct, une intégration, on va au-devant de fractures au sein de la société.
Alors on entend des voix qui disent voilà c'est le grand remplacement, c'est voilà on a un conflit civilisationnel. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes qui disent ça?
Bah, l'histoire de la France le montre, hein, que on a eu des immigrations et la France est diverse, on est en capacité d'accueillir. Moi je pense qu'il faut quand même évidemment réguler. Il y a une régulation à faire. On ne peut pas ouvrir grand les portes et puis accueillir tout le monde. Ce qu'on souhaite, c'est déjà accueillir ceux qui sont là et qui sont dans le besoin et dans une situation de désespoir. Ne pas rejeter à la mer, parce que ça, c'est vraiment un sujet. Les personnes qui viennent par bateau, par des voies illégales, parce qu'il y a un sujet humanitaire qui est gravissime. Et puis, surtout, ce qu'on soutient énormément, c'est l'aide des pays qu'on dit en développement, entre guillemets, pour justement améliorer leur situation, leur redonner les capacités d'accueil, de maintenir les personnes qui vivent dans leur pays de manière correcte.
Voilà, la coopération, l'aide.
La coopération.
Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Manon Gall, secrétaire régionale, les écologistes de Bretagne, merci infiniment d'avoir été avec nous ce lundi matin en direct au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.